secondes. Diplômé de l'ESSEC, le père Jean-Philippe Fabre nous offre sa présence agréable. Nous offre sa présence agréable et utile pour dire la liberté que propose l'Évangile et qui, sans celui-ci, tôt ou tard se délabre. Prêtre depuis 26 ans, à Rome, Lourdes et Paris, fan de théologie, il en devint docteur. Il est au Bernardin, à présent professeur, et auteur de nombreux succès de librairie.
Merci de cette présentation qui dit tout de ce que je suis. Alors, je suis heureux d'être avec vous ce soir. C'est un exercice qui est toujours un peu émouvant, voire même angoissant, de se retrouver devant autant de neurones en même temps connectés par quelques synapses en ébullition. Donc je vais essayer de... Alors ça, c'est, je crois que c'est, je sais plus, c'est la quatrième ou cinquième fois que je viens, donc j'essaie de m'y réhabituer à chaque fois. Et je voudrais, j'ai trois quarts d'heure pour vous parler de l'Évangile vous rendra libre. Et Mathilde m'avait proposé la vérité vous rendra libre, mais alors ça faisait deux concepts que je ne comprends pas très bien ni l'un ni l'autre dans la même phrase. Je me suis dit, je vais garder qu'un seul des deux concepts. Déjà, la vérité, c'est compliqué. La liberté, c'est encore plus compliqué. Et puis, quand Jésus dit ça, comme c'est Jésus qui dit, c'est encore plus compliqué. Donc, je me suis dit, je vais prendre plutôt autre chose. Je voudrais travailler la question de la liberté à l'intérieur de l'Évangile, ou plus exactement, comment est-ce que l'Évangile est un chemin de liberté au sens vraiment fort du terme. Étonnamment, et je partirai de cela, la première occurrence du verbe vouloir quand il s'agit des disciples, le verbe vouloir qui est malgré tout le verbe le plus attaché à la liberté, je veux, on dit ça pour ceux qui se préparent au mariage, là, c'est le cœur de la liberté, c'est je veux vraiment, je te choisis, je veux te choisir. Ce verbe « vouloir » à propos des disciples n'arrive dans l'évangile de Marc que à la moitié de l'évangile. En gros, les disciples débarquent derrière Jésus au chapitre 1. Ils sont indiscutablement présents auprès de Jésus pendant quasiment... Il n'y a pas de scène, très peu, sans que les disciples ne soient présents. Ils sont avec lui, ils sont appelés au chapitre 1, j'y reviendrai, ils sont institués au chapitre 3, ils sont associés au chapitre 6 pour la multiplication des pains. Et pourtant, la première fois que Jésus leur parle en disant « qui veut me suivre », c'est au chapitre 8. Et c'est ça que je voulais regarder avec vous, c'est-à-dire comprendre... quel type de liberté est la liberté du disciple à la suite de Jésus. Alors, avant d'entrer un peu plus là-dedans, je voudrais vous dire que je vais prendre un seul évangile, qui est celui que j'aime tant, qui est l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que l'évangile de Marc, c'est le premier des évangiles, celui qui a été écrit, qui a inventé en quelque sorte le genre littéraire évangile. Et Marc est quelqu'un qui a été saisi vraiment par Jésus-Christ et qui lui-même fait un itinéraire à la suite de Christ qui est époustouflant et qui va l'amener à prendre la plume sur Jésus. Et son évangile est de loin le plus méconnu, le plus déprécié probablement parce que c'est le moins théologique. Marc n'est pas là pour nous expliquer Jésus, mais Marc, il a envie de faire à son lecteur un véritable parcours itinéraire à la suite du Christ. Et cet itinéraire qu'il veut faire à son lecteur, sur lequel je vais revenir avec vous, c'est un itinéraire qui est l'itinéraire du disciple, qui est un itinéraire profondément respectueux de la personne qui va suivre Jésus. Donc c'est vraiment un itinéraire, on va le voir, hein, c'est un itinéraire de... Marc veut nous faire partager sa propre expérience à la suite du Christ. L'évangile, j'en parlais tout à l'heure à table, n'est pas tant une chronique de la vie de Jésus qu'un parcours dynamique. Il y a quelque chose de performatif dans l'évangile de Marc. Vous connaissez beaucoup d'autres livres où on se dit, tiens, il y a un héros dans le livre, il y a un protagoniste, et ce protagoniste, je vais le suivre ou vivre comme lui. On a compte qu'un évangile nous présente un protagoniste, c'est surtout le cas de l'évangile de Marc, et on se dit, tiens, le héros du livre, c'est le livre dont vous êtes le héros, on pourrait presque dire, le héros du livre, eh ben, je vais décider de le suivre. Vous voyez un peu l'aspect performatif. Peut-être vous prendre un petit exemple, il y a un petit livre que vous pouvez lire sur Marc qui est de Veronese, de Sandro Veronese, qui est un Italien, qui s'appelle, je crois, juste Selon Marc. C'est très étonnant, c'est un journaliste italien, romain, qui un jour se retrouve avec un évangile de Marc dans les mains parce que quelques jeunes Italiens de Rome, au moment de l'année jubilaire de l'an 2000, distribuaient des évangiles. C'était une mission faite par les paroisses et surtout demandée par le pape Jean-Paul II lui-même, qui avait fait distribuer ses bouquins. Et puis, lui-même se retrouve avec l'évangile de Marc entre les mains. Il le lit. Bouleversement d'une vie. Et quand il commence son livre... pour faire un commentaire très personnel mais remarquable de l'évangile de Marc, commence son livre, en gros, je vous le cite de tête, hein, en disant « Jean-Paul II a fait distribuer l'évangile de Marc et il dit que c'est celui-là qu'il prend parce que c'est celui de l'année liturgique. Jean-Paul II ne le fait pas parce que c'est celui de l'année liturgique, il le fait parce que l'évangile de Marc est une véritable machine à convertir. » Machine à convertir. Et vraiment, lui-même s'est senti saisi par le personnage central de ce récit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de cette biographie. Et tout d'un coup, avec ce désir de suivre, de comprendre, d'aller derrière. Et cet homme l'a fait avec en sentant une profonde liberté. Alors je voudrais reprendre ça. C'est quoi la liberté du disciple dans l'évangile de Marc ? Vous avez bien compris qu'au fond, les disciples, dans l'évangile de Marc dont je vais vous parler, les disciples, c'est la porte d'entrée du lecteur. Nous-mêmes, les premiers à qui nous nous identifions dans un évangile, ce sont les disciples. On ne s'identifie pas à Jésus. Jésus, il est trop unique pour qu'on puisse s'identifier à lui. On ne s'identifie pas bien avec les pharisiens, même si de temps en temps, on devrait peut-être le faire un peu plus. On ne s'identifie pas beaucoup avec les foules, parce qu'on est comme quelqu'un. Mais voilà, on s'identifie quand même assez facilement avec ses disciples. Et ben, je voudrais regarder l'itinéraire que Jésus fait à ses disciples et pourquoi il ne leur propose véritablement et explicitement un acte de liberté qu'au chapitre 8. Alors pour ça, je voudrais reprendre les 8 premiers chapitres de l'évangile de Marc. Alors, pour que vous les ayez un peu en tête, en gros, il s'agit du ministère en Galilée. C'est vraiment le ministère en Galilée, avec un virage qui va arriver à la fin du chapitre 8, je vais vous en parler. Donc, dans ces 8 premiers chapitres, on a les disciples qui suivent Jésus, je vous l'ai dit. Je voudrais reprendre 3 épisodes particulièrement, pour essayer de regarder quelle est la liberté des disciples dans ces épisodes-là. Le premier épisode, c'est l'épisode, bien sûr, de l'appel des disciples. On est au chapitre 1, versets 16 à 20, c'est-à-dire qu'on est... on n'a eu que 15 versets avant. Donc, en 15 versets, notre ami Marc a eu le temps de nous raconter la prédication de Jean-Baptiste, le baptême de Jésus et les tentations au désert. Plus le début de l'annonce au verset 14 et 15 évangélique. Donc vous voyez, rapide, ce qu'il veut faire, le Marc, parce que c'est toujours le disciple qu'il vise, c'est tout de suite introduire les disciples, pour tout de suite permettre au lecteur d'avoir des personnages auxquels s'identifier. Alors, je commence par, bien sûr, l'appel des disciples, je le prends avec vous, et je le lirai un peu rapidement, hein, mais... Comme il passait, Jésus, sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon qui jetait l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean son frère, eux aussi dans la barque en train d'arranger les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. On a quand même plutôt affaire à un gourou à ce moment-là qu'à un homme qui va entretenir une liberté chez ceux qui vont le suivre. Hein, c'est immédiat. On a l'impression qu'il les connaît pas et que eux non plus. Alors on vous a dit ça. Hein, vous étiez plus petit. Maintenant vous faites plus ça. Mais on suit pas les gens qu'on connaît pas dans la rue. Voilà. Non mais objectivement, et là. On se retrouve avec des gens qui suivent et qui ne savent pas encore vraiment pourquoi ils suivent. Alors ça, c'est la première chose de la liberté. C'est le pari de la liberté qui est ici et qui me semble extrêmement important. Il ne faut sans doute pas toujours avoir pris conscience qu'on était pleinement libre pour commencer à poser des actes qui nous engagent. Et ça a été votre cas. Il y a des tas de choses que vous avez faites parce qu'on vous a dit de les faire quand vous étiez tout petit, un peu plus grand. Et la liberté, le rêve de liberté qui est souvent un peu adolescentrique, c'est je fais ce que je veux. Et précisément, le début de la liberté ici, même si elle n'est pas encore manifestée comme telle, c'est pas je fais ce que je veux, mais je rentre dans une relation qui va me faire grandir. Et même si je ne suis pas encore complètement certain que j'ai tout choisi, les disciples n'ont rien choisi là encore. La seule chose qu'ils ont choisi, c'est de renoncer à un certain nombre de choses. Et ça, c'est le deuxième point de la liberté ici. C'est qu'il n'y a pas de liberté sans renoncement. Elle n'est pas encore pleinement manifestée, mais il n'y a pas de liberté sans renoncement. Donc ils vont, vous l'avez compris, laisser leur filet. Alors s'ils laissent leur filet, c'est pour d'autres filets. Laisser leur barque. Pour une autre barque, sans doute celle de l'église, laisser leur père, pour un autre père probablement, que Jésus va leur faire connaître. Ça, c'est le premier point, je crois, d'exercice de la liberté. Il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du pari dans les engagements. Peut-être qu'il y en a parmi vous ici qui ne savent toujours pas très bien pourquoi ils sont ici, mais il y a ce saut dans l'inconnu qu'on a ici. Et que Jésus fait faire à ses disciples. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, me semble-t-il, donc vous voyez, ils s'attachent à Jésus sans vraiment savoir encore pourquoi. Et ça, c'est important. Ne rêvons pas, dans notre vie chrétienne, d'une liberté qui soit complètement explicitée, qui soit complètement sûre d'elle-même. Et il y a, me semble-t-il, dans l'itinéraire que Jésus propose de faire, quelque chose qui est de l'ordre de l'attirance. S'ils suivent, c'est sans doute qu'ils sont attirés. Une capacité à renoncer à certaines choses. Vous êtes là ce soir parce que vous renoncez à d'autres, peut-être. Voilà. Et vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, enfin que dans le texte que je viens de vous lire, il n'y a pas encore « ils voulurent le suivre ». Mais ils le suivirent, assez brutalement. Le deuxième moment, c'est le moment où Jésus... Alors, j'avance doucement avec vous, mais le deuxième moment, c'est le moment de l'institution des 12. On est au chapitre 3 seulement, donc vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose, si ce n'est quelques polémiques et quelques miracles et polémiques. Et puis on nous dit, « Puis il gravit la montagne et il appelle à lui ce qu'il voulait. » Cette fois-ci, il y a le verbe « vouloir », mais assez étonnamment, ce n'est pas un verbe qui touche les disciples, c'est un verbe qui a pour sujet Jésus lui-même. Il y a un acte de liberté dans le choix de Jésus qui est au cœur de toute vie chrétienne. En fait, on a eu ça, on a ce magnifique livre du cardinal Lustiger qui s'appelle « Le choix de Dieu », dont on ne sait plus très bien si c'est lui qui a fait le choix de Dieu ou si c'est Dieu qui a fait le choix de lui. Voilà. Mais au fond, et c'est volontairement que ça reste ambigu, vous voyez, il y a dans l'exercice de la liberté chrétienne la certitude que il y a une volonté qui me précède. qu'il y ait une liberté qui me précède. Et que cette volonté, cette liberté fait à la fois que je suis là d'abord, puisqu'il y a une volonté toute puissante de qui fait que j'existe. Voilà. Et derrière, il y a cette profonde liberté de Dieu, ce profond libre vouloir, oui, de Dieu, selon son bon vouloir. Nous sommes là selon le bon vouloir de Dieu. Ça, c'est le deuxième point, me semble-t-il, après le saut dans l'inconnu. Le deuxième point, il est vraiment de l'ordre de l'accueil d'une altérité. C'est-à-dire que je crois qu'on est vraiment libre à partir du moment où on accepte qu'il y ait une autre liberté qui me fasse vivre. Il y a vraiment cet accueil de la liberté qui est de la liberté de Dieu. Dieu est libre avant moi, et c'est ce qui va me rendre libre. C'est pas très moderne, ça. C'est-à-dire que globalement, à nouveau, dans la façon dont on vit la liberté, on confond souvent la liberté avec l'autonomie, l'indépendance, je suis libre si je fais ce que je veux. Et là, on commence à comprendre que y a une autre volonté qui est plus grande que la mienne, et que ce qui va me rendre libre, c'est précisément de me conformer à cette liberté-là. Et ça va me rendre libre, on va le voir, on va continuer là-dessus. D'accord ? Troisième moment, voilà, l'institution des 12. Ah non, j'avais une deuxième chose à vous dire là-dessus. Ils vinrent à lui, il en institua 12. Alors, la traduction n'est pas très bonne ici, on a parlé de traduction aussi à table. Il y a marqué « pour être ses compagnons », en grec c'est « pour être avec lui ». C'est-à-dire que c'est une liberté de compagnonnage. Il les institue pas d'abord pour aller chasser les démons, pas pour guérir les malades, pas pour évangéliser, pas d'abord pour ça. La première chose pour laquelle Jésus institue ses disciples, c'est pour être avec lui. D'accord. Voilà. Et donc, c'est une liberté de compagnonnage. Ça aussi, ça va un peu contre l'idée que je suis libre si je suis avec moi-même, ou si je suis plus je suis fidèle à ce que je dois être, à ce que je suis. On a quand même un monde qui marche beaucoup sur l'égotisme là-dessus, hein, et on a vraiment ici une liberté de compagnonnage. Mais Jésus n'a toujours pas parlé du verbe vouloir à propos de ses disciples. Troisième moment, je fais un parcours un peu rapide pour les disciples, mais vous allez voir qu'on va s'arrêter assez fortement sur le cœur de l'évangile au chapitre 8. Troisième moment que je choisis, c'est le moment de la multiplication des pains. Dans la multiplication des pains, Jésus continue à avoir ses disciples autour d'eux. Les disciples ne comprennent toujours pas grand-chose à ce qui se passe. Ils sont toujours présents sans qu'on sache vraiment ce qui les motive. Ils ne sont pas construits vraiment en termes de motivation, on va le voir. N'empêche que là, Jésus leur propose de se reposer un peu à l'écart, et puis quand les disciples prennent l'initiative de dire « l'endroit est désert, l'heure est avancée, renvoie-les afin qu'ils aillent dans les fermes et les villages alentours s'acheter de quoi manger », il leur répondit « donnez-leur vous-même à manger ». Et quand Jésus fait ça, ce n'est pas un défi qu'il leur lance, c'est qu'il va leur révéler qu'ils ont eux-mêmes de quoi nourrir les foules. Et de fait, si vous allez un tout petit peu plus loin, une fois que Jésus a multiplié les pains, qu'est-ce qu'il fait ? On nous dit, il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupe de convives sur l'herbe verte. Ils s'allongèrent à terre par carré de 50 ou 100. Prenant les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, les bénit, rompit les pains et les donnait, non pas aux foules, mais aux disciples, pour qu'ils les donnent aux foules. Aux disciples pour qu'ils les donnent aux foules. Ça veut dire, c'est la troisième chose, que Jésus veut prendre ses disciples comme collaborateurs de sa propre mission. Donc nous avons là, Jésus les travaille en termes de travailler pour moi, vous ne savez encore pas très bien pourquoi vous le faites, mais travailler pour moi, je vous fais collaborateur de la mission. Et vous allez pouvoir vous associer de plus près à moi. Hein. Donc vous avez ce troisième temps qui est celui de la collaboration. Hein, premier temps, celui du renoncement en quelque sorte. Hein, deuxième temps, celui de la de la euh, de la dépendance par rapport à Jésus. Troisième temps, celui de la collaboration. Avec ça, on n'est toujours pas, on n'a toujours pas le verbe vouloir à propos des disciples. À quoi ça arrive tout ça? Et ça, je vais essayer de vous le montrer. Ça arrive à la fin de cette grande partie du ministère en Galilée. Ça arrive à un épisode qui se passe sur une barque et qui est extrêmement violent pour les disciples. Je vais vous le lire. C'est d'une violence qui est, on lit très peu d'ailleurs cet épisode tellement il est violent pour les disciples. Les disciples, donc sur la barque, se faisaient entre eux cette réflexion qu'ils n'ont pas de pain. Et le sachant, Jésus leur dit, « Pourquoi vous faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain ? Vous ne comprenez pas encore ? Vous ne saisissez pas ? Vous avez l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre ? Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains et les 5 000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés ? Ils disent 12. Et lors des 7 pour les 4 000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux vous avez emportées ? Et ils disent 7. Alors il leur dit, vous ne comprenez pas encore ? Alors là, c'est le texte le plus génial qu'on ait ici. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend en quelque sorte, que les disciples ne comprennent rien. Vous ne comprenez pas, vous avez l'esprit bouché, vous ne vous rappelez pas. Problème de mémoire, qui est une des parties les plus importantes de notre intelligence, problème de compréhension, esprit bouché, donc problème spirituel, et tout ça. Là. Et le pire, c'est que Jésus commence à faire de la comptabilité, vous en avez certains ici qui font beaucoup de matchs, de ce que j'ai compris, il commence à leur dire 5 pains pour 5 000, combien de corbeilles ? 12. Et 4 pains pour 7 000, combien de corbeilles ? 7. Et vous ne comprenez pas ? Je pense que même à leur manière, ne comprend pas. Donc en fait, c'est le moment le plus génial de cet évangile, c'est le moment où le lecteur se dit « Mais moi non plus, je ne comprends rien. » Et en fait, toute cette première partie de l'évangile, et c'est ça que Marc nous fait faire, c'est qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi les disciples suivent, on ne comprend pas ce que fait Jésus. Il est là avec ce qu'on appelle une parataxe, c'est-à-dire en permanence, et aussitôt Jésus fait ci, et aussitôt il fait ça, et aussitôt il fait ça, et aussitôt... Mais il ne donne jamais d'explication. Il est là à faire des tas de trucs, et on ne sait même pas où est-ce qu'il va être dans le quart d'heure suivant. On est sur des épisodes qui se suivent, et on reprend les... Alors, qu'est-ce qu'on fait vous ne comprenez pas, qu'est-ce qu'on fait? On reprend les pages, on va au moins lire les 2 multiplications des pains, on ne comprend pas plus, on va relire depuis le début, on s'aperçoit qu'on n'a rien compris. En fait, l'évangile de Marc, dans sa première partie, il nous fait lâcher complètement nos certitudes. Et c'est qu'une fois qu'il y aura eu ces certitudes lâchées, que Jésus va pouvoir commencer à reconstruire. Dans l'évangile de Marc, la première condition d'une vraie liberté, c'est d'accepter, de se laisser saisir par l'inouï de la personne de Jésus. Vraiment, Jésus est inouï, il est toujours au-delà des conceptions que j'en ai, il m'emmène toujours dans un ailleurs. Il commence à partir à Bethsaïde au chapitre 6. Il arrive au chapitre 8 seulement. Où est-ce qu'il a été entre les deux? On ne sait pas très bien. Et même le cadre géographique ne nous aide pas, le cadre temporel non plus, on ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe. Et ça, c'est toute la performativité de cet évangile de Marc. C'est qu'on voit Jésus, on est comme les disciples. On le voit faire, et comme on nous a mis témoin comme les disciples depuis le chapitre 1, verset 16, on est là, on regarde, et puis il y a un moment où Jésus nous dit, mais vous avez l'esprit bouché, mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas encore. D'accord? Ça, c'est vraiment une fois que vous avez lâché ça, que vous allez vraiment faire cette expérience d'un Jésus qui n'est pas en train de vous rassurer sur un bon petit cadre bien fait, sur une petite liberté extrêmement carrée, et puis on comprend que suivre Jésus, c'est un chemin qui va nous déstabiliser, qui va nous emmener dans un ailleurs, on sait bien combien, dès qu'on est dans la catosphère, un tout petit peu restreinte, un peu serrée, avec des idées bien faites sur un peu tout, hein, on a toutes nos fiches, hein, celle sur le mariage pour tous, celle sur on a plein de fiches qui sont hyper bien faites. Et ben, un jour ou l'autre, on voit que Jésus fait casse les cadres. Et ça, c'est vraiment Jésus va vraiment nous appeler à une liberté plus grande. Marc a été saisi par l'inouï de Jésus et il veut qu'on fasse la même chose, qu'on soit saisi par le fait que Jésus est toujours au-delà de ce qu'on peut en comprendre. C'est tellement vrai que Marc va raconter c'est le seul à raconter un épisode, parce que vous savez que Matthieu et Luc ont repris l'évangile de Marc et ils ont repris quelque chose comme 575 versets sur 633 dans Marc. Donc ça veut dire qu'ils en ont repris 95%. Pourtant, il y a un épisode qu'ils n'ont pas voulu reprendre. Je vais vous le lire. Donc il n'y a que Marc qui l'a dit, et puis on ne comprend pas très bien pourquoi. Il est juste après le « vous voyez donc pas », « vous ne voyez donc pas », »,« vous ne vous rappelez pas », »,« vous voyez pas ». Juste après ça, Jésus va guérir un aveugle, le premier aveugle. Hein. Regardez cet aveugle. Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle, en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait « Est-ce que tu aperçois quelque chose ?» Et donc, voyez un peu le truc avec les disciples qui est juste avant, vous voyez donc rien, toi tu aperçois quelque chose. Et l'autre qui commençait à voir, de dire « Bah oui, j'aperçois des gens. » C'est comme si c'était des arbres que je vois marcher. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci fut clair et fut rétabli et le voyait toujours nettement. Ça, c'est la seule de toutes les guérisons que Jésus réussit pas du premier coup. Elle est très ennuyeuse. C'est la seule sur laquelle il fait un diagnostic intermédiaire. Ça a marché ? Oui, je vois des gens, mais enfin, ils ressemblent quand même beaucoup à des arbres. D'accord ? Donc on a quelque chose qui est incroyable, ce texte est incroyable. Mais bien évidemment, vous avez une mise en abîme ici de tout le parcours des disciples. Jésus, en faisant ça, et Marc nous le met là pour nous faire comprendre que ça va être très 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 long pour que les disciples arrivent à voir clair, d'accord, hein, et que ça va être très long, et là on va pouvoir commencer à reconstruire. Alors du coup j'arrive, j'ai jusqu'à quelle heure, je sais plus à quelle heure j'ai commencé, j'ai jusqu'à 40. Ok, très bien, ça ira. Et alors c'est là qu'on arrive dans cet épisode incroyable qui est l'épisode de Césarée de Philippe. Je suis juste après, donc juste, c'est vraiment, je vous ai lu jusqu'au verset 26, je prends le 27, donc on est juste après Bethsaïde. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin, il posait à ses disciples cette question : qui suis-je au dire des hommes ? Ils lui dirent : Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes, et pour vous, qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis, plutôt ? Pierre leur répond : tu es le Christ. Donc c'est la première fois que quelqu'un saint de corps et d'esprit dit l'identité de Jésus. Et Pierre le fait. Et il a raison. Jésus l'atteste de plusieurs manières, mais le titre est là. Si ce n'est que nous, comme lecteurs, on a quand même eu au verset 1, chapitre 1, on a eu Évangile de Jésus-Christ, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc nous, on sait que Jésus est le Christ depuis le verset 1. Eux, ils ont dû attendre le chapitre 8 pour le savoir. Quel est notre problème à nous, lecteurs, puisqu'on est surtout dans le performatif ? C'est que jusque-là, notre question, c'est est-ce qu'ils vont découvrir qu'il est le Christ ? Mais maintenant qu'ils l'ont découvert, et ça, c'est le grand génie de Marc, nous, comme lecteurs, on a la même information que les disciples. On se retrouve complètement à pied d'égalité avec eux. On avait un petit coup d'avance sur eux. Nous, on savait que c'était Jésus-Christ. Ils le savent exactement. Tout d'un coup, comme lecteur, et ça, c'est le grand génie, je me retrouve à pied d'égalité. Ok, Jésus est le Christ. Moi, je le savais. Eux le savent maintenant. Je ne sais pas très bien comment ils le savent, d'ailleurs, parce que juste avant, Jésus leur a quand même dit qu'il avait l'esprit bouché. Enfin, ils le savent. Et voilà que Jésus leur dit : vous dites ça à personne. Vous dites ça à personne. Et il commença de leur enseigner : le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Première annonce de la passion. Jésus leur dit, je suis le Christ, oui, mais un Christ souffrant. D'accord ? Vous allez voir où on va arriver. Pierre le tire à lui et lui dit, et se mit à le morigéner. Alors, se retournant et voyant les disciples, Jésus admonesta Pierre et dit, passe derrière moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Ben oui, quel est notre problème là ? C'est qu'on voyait un Jésus-Christ triomphant, un Christ glorieux. Et voilà que Jésus vient de dire, je vais être un Christ souffrant. Et bien c'est ce moment-là, chers amis, où Jésus va, pour la première fois, parler de liberté à ses disciples. Pierre ne comprend pas. On est comme dans l'épisode de Bethsaïde. Il a compris un peu, Pierre, mais pas complètement. Et bien il a compris quoi ? Que Jésus était le Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris ? Ce que ça impliquait. Et alors là, je rentre vraiment dans le cœur de mon propos, la liberté d'implication. C'est-à-dire qu'au fond, on peut dire en quelque sorte, je vais faire un peu rapide là-dessus, mais on peut dire en quelque sorte, Pierre est croyant, il n'est pas encore théologien dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il a pas compris. Il croit bien que Jésus est le Christ, mais il ne sait pas encore ce que ça implique, ce que ça veut dire. Et il est hors de question qu'il le comprenne. Et c'est ce moment-là, précisément, quand Pierre n'a pas compris que Jésus annonçait sa passion et que c'était ça qui serait un Christ souffrant, c'est ce moment-là où Jésus, pour la première fois, va utiliser le verbe vouloir. Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il dit... Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà que Jésus est en train de dire, moi je monte vers Jérusalem, vers ma croix, si quelqu'un veut me suivre, il n'y a pas d'autre chemin que le mien. Si vous êtes derrière moi, vous allez passer par les mêmes endroits que moi. C'est la première fois que Jésus utilise le terme croix, et c'est la première fois qu'il l'utilise, il l'utilise pour ses disciples. Il ne l'utilisera d'ailleurs jamais pour lui-même. Rendez compte de ça. Le terme croix, qui pour nous est associé à la personne du Christ, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, pas ma croix, sa croix, et qu'il me suive. Donc vous voyez, on va vraiment avoir ici, je trouve que c'est vraiment ça qui est extrêmement passionnant, c'est que dans ce moment charnière, les disciples sont capables de dire qui est Jésus. Ils ne sont pas encore capables de comprendre ce que ça veut dire. Et dans un troisième temps, Jésus dit, il n'y a pas d'autre moyen de comprendre que de me suivre. Il aurait pu réexpliquer en disant, vous savez, je vois le serviteur souffrant, Isaïe en avait déjà parlé d'ailleurs, c'est comme ça, c'est dans le plan de Dieu et tout ça. Plutôt que de s'impliquer, d'expliquer, il implique pour la première fois ses disciples en termes de liberté. Donc la liberté qui est là, Jésus, alors, d'abord c'est une grande délicatesse de sa part, parce que précisément au moment où... Jusque-là, ils suivaient, mais ils ne savaient pas très bien pourquoi ils suivaient. Maintenant qu'il leur dit, je vais jusqu'à la croix, je vais aller là, c'est précisément le moment où Jésus leur remet sur leur liberté. On a ça à la fin du chapitre 6 de Jean, avec le discours sur le pain de vie. Hein, elle est dure cette parole, hein, oh là, qui peut l'entendre ? Et des disciples commencèrent à arrêter de le suivre. Donc Jésus perd des disciples. À la fin du chapitre 6, sur la question du pain de vie. Père des disciples, il se retourne vers Pierre et il dit, vous voulez partir vous aussi, la liberté. Vous voulez partir vous aussi. D'accord ? Et donc, c'est quand c'est dur que Jésus engage la liberté de ses disciples. Alors, que vont faire les disciples ? D'abord, Pierre, il répond dans l'évangile de Jean, à qui irions-nous ? Hein ? En gros, on est maintenant... C'est pas très convaincant, quand même, comme réponse. Hein. À qui irions-nous ? On n'a rien de mieux. Voilà. On sait que tu es quand même le Christ. Voilà. Donc, on sait. C'est là que va commencer, chers amis, et c'est ça que je voudrais qu'on ait, qu'on voit la question de la liberté. Dans l'Évangile, être croyant n'est pas encore être disciple. Le croyant, c'est celui qui peut poser une parole de foi. Le disciple, c'est celui qui va conformer sa vie. Il y a deux verbes qui sont importants dans l'évangile de Marc, dans ce cadre-là. C'est le verbe croire, la foi, et c'est le verbe suivre. On s'aperçoit que Pierre, il est croyant, mais il n'est pas encore prêt à suivre. Et finalement, l'acte de liberté dans l'évangile de Marc, il se joue là précisément. C'est-à-dire de passer de celui qui croit à celui qui suit. Alors, quand je fais ça comme chemin, y a une sorte de cercle herméneutique là-dessus. C'est-à-dire que plus je suis, plus je crois, plus je suis. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire je suis croyant, mais pas disciple. C'est en devenant disciple qu'on devient croyant et de mieux en mieux. Et vous voyez comme quoi Jésus ici, hein, au cœur de l'évangile, avec ce qui veut me suivre, ben voilà, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, vous allez me dire, oui, bon, on est bien avec ça, mais enfin, le programme est quand même pas très intéressant. Si ma liberté, c'est la liberté de la croix, peut-être que je vais la reprendre, ma liberté, comme l'ont fait certains à Capharnaüm, là, après le discours. Jusque-là, je veux bien avoir suivi. On est tous à la suite de Jésus pour des raisons sans doute un peu différentes, certains peut-être de façon plus récente, d'autres peut-être de façon familiale, d'autres peut-être eu une expérience spirituelle à un moment, hein, des trucs qui ont marqué un peu notre vie chrétienne, on est tous un peu brinque-ballant. Si on se retourne et que derrière on sort là et puis qu'on a un type qui nous dit dans la rue « mais tu crois à Jésus, pourquoi ?» On risque d'être un tout petit peu flou. Ouais, bah, j'y crois parce qu'il est fils de Dieu. Mais bon, oui. Et donc là, il y a ce moment précis, là où Jésus va prendre ses disciples un peu déstabilisés, comme vous l'êtes peut-être aussi par cet évangile de Marc depuis le début, qui n'a pas arrêté de nous emmener un peu dans tous les sens, qui nous a fait faire cette expérience-là de ne pas vraiment voir clair. Et à partir de là, comment Jésus va gérer avec ses disciples? Étonnamment, d'abord et premièrement, à partir du moment où il les emmène, Jésus va d'une patience infiniment plus grande dans la deuxième partie de l'évangile que dans la première avec ses disciples. Il va leur passer beaucoup de choses, il va prendre beaucoup de temps pour leur expliquer, il passe beaucoup de temps à la maison, et à la maison il leur dit en particulier, il leur explique pas mal de choses. Ça, c'est le premier point. Jésus va vraiment prendre du temps à prendre soin de la compréhension de ses disciples. Ça, c'est à partir de ce moment-là. La deuxième chose qui est déterminante ici, c'est que Jésus demande de suivre et donc il se met en chemin. On a, entre le chapitre 8, verset 27, là, que je vous ai donné, et le chapitre 10, verset 52, c'est-à-dire juste avant l'arrivée à Jérusalem, on a ce qu'on appelle la section du chemin. Et c'est là-dessus que je vais prendre toute la suite, le petit quart d'heure qui me reste. La section du chemin, c'est quoi ? C'est une section très travaillée par Marc, à partir du moment où Jésus a pu, où on a fait cette sorte de charnière dans l'évangile, on a pu trouver qui était Jésus, mais on n'a pas encore vraiment compris ce que ça signifiait. D'accord ? Donc Jésus est le Christ, et voyez comment nous, du coup, on va goûter dans cette section du chemin, encore plus qu'avant, à toutes les paroles que Jésus va dire à ses disciples en les prenant à part. Il n'arrête pas de les prendre à part. Et donc, nous, comme lecteurs, on assiste à des réunions privées, en quelque sorte. Et on en a besoin, parce que maintenant qu'on en sait autant que les apôtres, avec Jésus et le Christ, mais qu'on n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il fallait jusqu'à la croix, parce que c'est comme le programme n'est pas très enthousiasmant, on se dit, j'ai compris que j'étais libre. Je suis, voilà. Ça, c'est hyper important. Je suis libre, mais je suis quand même là avec ses disciples et j'accède aux enseignements de Jésus. Au demeurant, vous voyez qu'ici, en ayant placé ça avant de continuer sur la section du chemin, c'est le premier point qui est extrêmement intéressant, c'est que être chrétien, c'est forcément être libre. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on peut pas être chrétien par contrainte. On peut ne pas toujours savoir pourquoi on est chrétien. Mais vous voyez bien qu'à un moment ou à un autre, il y a cette idée d'un Jésus qui dit qu'il veut me suivre. C'est important parce que dans la tête de beaucoup de nos contemporains, il y a l'idée que si on est chrétien, c'est qu'on nous oblige et qu'on suit des contraintes. On a un tout petit peu ça, nous, souvent, dans la question du « Mais pourquoi est-ce qu'on vous oblige à être célibataire ?» On nous dit « Bon, personne ne m'oblige à être célibataire. Ça faisait partie, alors c'est pas sans renoncement, mais ça faisait partie de choses que j'ai voulu, que j'ai désiré. Alors j'ai peut-être accepté d'être célibataire, je ne l'aurais peut-être pas fait spontanément, mais puisque c'est dans le programme, je l'ai fait. Voilà. Mais voilà, donc vous voyez, il y a cette idée-là qui est forte, hein, que il y a un moment ou un autre, le christianisme est forcément une religion de consentement, d'acquiescement. Mais si j'ai compris que j'acquiesçais à des choses qui n'étaient pas forcément celles que je choisissais moi, mais celles qui m'étaient données de vivre. Donc je reprends la section du chemin. En fait, vous avez une expression qui revient de multiples fois, mais notamment 5 fois, très précisément dans cette section, qui est l'expression enteodo en grec, en chemin. C'est en chemin, c'est bien de le traduire comme ça, ou en, c'est en le chemin, exactement, en le chemin. Dans le N, il y a quelque chose d'intégratif, c'est-à-dire en chemin, c'est dans le chemin, c'est pas sur le chemin, c'est dans le chemin. J'y tiens beaucoup parce que Jésus va être à la fois très dynamique, et ce mot revient à 5 reprises. D'abord au tout début, là, je vous l'ai lu tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention, mais je vous l'ai lu, hein, avec le Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe, et en chemin, il posait à ses disciples cette question. Le chemin commence ici. Ensuite, on retrouve l'expression à chaque fois qu'on a une des prédictions de la Passion. 3 fois, Jésus va dire qu'il va passer par la Passion. 3 fois, les disciples ne vont pas comprendre. 3 fois. La première fois, c'est Pierre. La deuxième fois, je vous la lis rapidement, Jésus leur annonce sa parole, mais ils ne comprenaient pas cette parole, ils craignaient l'interroger. Il va à Capharnaüm et une fois à la maison, il leur demandait « Mais quoi, de quoi discutiez-vous en chemin ?» En chemin. D'accord ? Et eux se taisaient parce qu'en chemin, ils se demandaient qui était le plus grand. Ben, ils ne comprennent rien. Jésus leur dit « Je vais être le plus petit » et ils se demandent qui est le plus grand. Et la troisième fois, c'est, vous la connaissez bien, c'est les fils de Madame Zébédée. C'est Jacques et Jean. La troisième fois, Jésus vient leur parler de la Passion, hein. Ils le bafoueront, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront, ils le tueront. Après 3 jours, il ressuscitera. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avancent vers lui. Maître, on voudrait que tu fasses. Nous voudrions. Ah, ils ont compris qu'ils étaient libres. Hein. Ça y est, ils ont compris. Donc ils utilisent le verbe nous, on voudrait. Hein. Ils utilisent leur liberté comme ça. Nous voulons, nous voudrions, nous voulons que tu fasses quelque chose pour nous. Ils viennent leur parler de bafouer, machin, tout ça. Hein. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Donc Jésus, vous voyez, il est très patient. Hein. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Il les écoute. Bon, écoute, on voudrait être un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans la gloire. Hein. On vient d'assister à la transfiguration juste avant. Il y avait Élie et Moïse, là, à droite et à gauche. Donc Matignon, place Beauvau. On aimerait bien, on voudrait les places. Quoi. Hein, là, ça, en gros, à peu de choses près. Donc, ils exercent leur volonté, mais pas tout à fait dans le bon sens. Et Jésus, au lieu de les renvoyer, leur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez, ce que vous pouvez boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dont je suis baptisé. Il leur parle de sa passion quand même. Hein. Et ils disent, oui, on peut ça. Hein. Et Jésus leur dit, mais la coupe que je vais boire, vous la boirez, le baptême, vous serez baptisé, mais vous n'avez pas de chance, quand tu assieds à ma droite, à ma gauche, ce n'est pas moi qui l'accorde. Je ne suis pas à l'Élysée. Voilà. C'est pour ceux à qui cela est destiné. La droite et la gauche, et vous savez qu'ils seront à droite et à gauche de Jésus. Hein. Ceux qui sont destinés, ça nous sera bien précisé. Hein. C'est deux larrons qui, eux, seront sur la croix. Donc, vous savez pas ce que vous demandez. Donc, ça, c'est important. Et alors, du coup, vous voyez, on a cette expression « en chemin » qui revient, et on sent que... Et à chaque fois, qu'est-ce que fait Jésus juste après ça ? À nouveau, comme les 2 fois d'avant pour les prédictions de la Passion, les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Et oh, ils veulent les meilleurs portefeuilles. Hein, bon, voilà. Les ayant appelés près de lui, il dit, vous savez qu'on regarde comme des chefs ceux qui dominent les nations, les grands qui font sentir le pouvoir. Il ne doit pas être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra être grand. Donc Jésus accueille des ambitions. D'accord, hein, il les repousse pas. Mais celui qui veut être grand, qu'il soit petit. Celui qui veut être le premier, qu'il soit le dernier esclave de tous. Et vous voyez, la liberté, Jésus va réorienter cette liberté. Vous voulez être grand, très bien, c'est votre pleine liberté. Il n'y a pas d'autre moyen d'être grand que d'être petit. Il n'y a pas d'autre moyen d'être le premier que d'être le dernier. serviteur des serviteurs. D'accord ? Alors, une fois que je vous ai dit ça, dans cette liberté, il y a un personnage qui va tout d'un coup tout récapituler, qui arrive là juste après ce dernier truc. On est quasiment arrivé à Jérusalem. Le début du chapitre 11, c'est l'entrée dans Jérusalem. Et dans la montée à Jérusalem, ça se termine aussi par le terme « en chemin ». C'est le personnage de Bartimée. Alors ça, je vais vous le prendre et on va finir sur ce personnage-là pour voir cette liberté. Puis après, je reprendrai un peu l'idée de la performativité de l'évangile. Ils arrivent à Jéricho. Donc Jésus vient de parler de Jacques et Jean, hein, donc c'est juste après. Ils arrivent à Jéricho et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Assis au bord. Le chemin est là, il est au bord, il bouge pas. Quand il apprit que c'était Jésus le Nazarénien, donc il apprend quoi ? Une information neutre. C'est Jésus le Nazarénien. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Donc il dit Jésus, fils de David, donc il est déjà croyant. Il voit déjà le Christ. D'accord ? Donc c'est un homme croyant. D'accord ? Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le rabrouaient, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, appelez-le, on l'appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Alors Jésus lui adressa la parole, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il y avait un parallélisme. Hein. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» juste avant. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» La dernière question que Jésus pose à quelqu'un avant d'entrer dans Jérusalem, c'est la question de sa liberté. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Dis-moi comment tu exerces ta liberté. Et lui dit, Rabouni que je vois. C'est magnifique ça, parce que Rabouni que je vois, quand on demande à quelqu'un de voir, en principe on l'appelle pas Rabouni, on l'appelle docteur. Si on l'appelle Rabouni, c'est qu'on y voit déjà un maître. Donc ce qu'on veut voir, c'est pas seulement avec les yeux de la chair, c'est avec les yeux d'intelligence. Donc Rabouni que je vois. Et à ce moment-là, on nous dit, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Donc Jésus reconnaît que c'est un homme de foi. Et là, le grand génie de Marc, hein, ou de cet épisode, aussitôt il recouvra la vue et il suivait Jésus en chemin. Grande inclusion entre, vous voyez, le début 8:27 et 10:52 en chemin. Et bien, nous avons là le seul de tous les guéris de Jésus qui se met à le suivre. Aucun autre dont on nous dit qu'il le suit. Alors, il y en a d'autres qui l'ont suivi, hein. Mais enfin, c'est le seul dont on nous dit qu'il le suit. Et Bartimée vient en quelque sorte récapituler toute cette figure de liberté du disciple. Il est celui qui est passé du croyant au disciple, du croire au suivre, du croyant au disciple. Cette figure, elle nous est donnée à la fin. C'est assez intéressant parce qu'en fait, entre les deux aveugles, puisqu'il y a eu deux aveugles, il n'y a eu que deux autres personnages secondaires. On appelle ça des personnages secondaires, des personnages qui arrivent dans le récit et qui repartent tout de suite du récit, on ne les reverra plus après. Vous avez eu donc l'aveugle de Bethsaïde, qui a eu du mal à passer de quoi ? Du non-voir au voir. Vous avez ensuite le père de l'enfant épileptique qui dit « Ah, oui, je crois, mais viens quand même au secours de mon manque de foi. » Tu as du mal à passer du non-croire au croire. Vous avez eu le jeune homme riche, l'homme riche, il n'est pas jeune chez Marc, l'homme riche qui a eu du mal à passer du non-suivre au suivre. Il s'en alla tout triste, hein, « Suis-moi hein. ». Et là, tout d'un coup, vous avez Bartimée, qui est à la fois celui qui croit, celui qui voit, celui qui croit, celui qui suit. Hein, et vraiment, personnage magnifique de liberté, qui nous est donné juste avant la rentrée dans Jérusalem. Je voudrais terminer là-dessus. J'ai une minute officiellement, trois parce que c'est moi. Je voudrais terminer là-dessus pour vous montrer. J'ai essayé de vous montrer combien un évangile est vraiment une sorte d'itinéraire très, 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 très performatif. C'est un récit auquel on appartient. On est dedans, on est pris, on est déstabilisé, on ne comprend pas. Il y a Jésus qui nous parle. Remarquez plusieurs fois, et ça, c'est le grand génie de Marc. Tout d'un coup, le lecteur se sent complètement investi dans le récit. Il y a le « vous ne comprenez pas » qu'on a vu, mais il y a aussi le fait que Jésus parle à la cantonade. « Qui veut me suivre ?» Jésus parle à un cantonade, qui veut me suivre. Ça, c'est vrai pour les apôtres. Jésus a appelé les foules, et finalement, c'est quelque chose qui se redonne à nous aussi fortement. Alors, peut-être sur la question de pourquoi est-ce que Jésus insiste sur ce mystère de la mort. Je crois que Marc est celui qui a fait le plus, probablement de tous les évangélistes, c'est celui qui parle le mieux de la croix et de ce mystère de la croix. Quelle est la compréhension de la liberté chez moi? C'est précisément que nous ne sommes pas à la hauteur de la croix. Tous vous allez succomber, dira Jésus à Pierre, tous vous allez succomber, le dit aux douze, tous vous allez succomber. Et si Jésus insiste sur le mystère de la croix, c'est pour nous dire précisément que je vais essayer de dire assez simplement, hein, mais c'est que il y a cette conscience que être un disciple, c'est pas d'abord quelqu'un qui a tout compris, qui est capable de bien suivre, qui rentre dans une perfection morale, c'est vraiment celui qui lâche ses incertitudes, ses fragilités, ses petitesses, ses contradictions personnelles, ses incohérences, ses péchés tout simplement, mais aussi ses épreuves qu'il vit, tout ça qu'il est lâche au Christ. Et tout le parcours que permet le Père Marc, c'est de consentir à lâcher au Christ, véritablement, qui est le seul qui soit à la hauteur de la croix, à lâcher au Christ toute l'épaisseur de nos vies, toute la prime balance de nos vies. Je ne sais pas si c'est très français, la prime balance, mais voilà. Et il y a vraiment la seule chose. C'est pour ça qu'au moment où Jésus dit qu'il veut me suivre, qu'il prenne sa croix, ça veut dire vraiment ça, que nous sommes invités à avoir une liberté qui ne soit pas celle de ceux qui recherchent la perfection, mais de ceux qui relâchent, qui lâchent leur fragilité vraiment au Christ. Et c'est pas un hasard, je finis par ça, c'est pas un hasard si Marc est le seul à nous raconter l'épisode de cet homme qui s'enfuit tout nu au moment de l'arrestation de Jésus. Vous avez souvenir de ça? Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il fait deux choses. Il suivait Jésus de loin, il lâcha son bras et il s'enfuit tout nu. C'est-à-dire que cet homme vient à peine de commencer à suivre Jésus qu'il l'a déjà fui. Je vais pas titiller là-dessus sur le fait qu'il s'agit de Marc lui-même qui parle de sa propre expérience au moment de Gethsémani, hein, et qui fait vraiment cette expérience d'avoir tenté de suivre Jésus, de ne pas avoir été à la hauteur de Jésus. Et pourtant, quand Jésus dit tous vous allez succomber, il rajoute tout de suite après, mais moi je vous précède en Galilée. C'est-à-dire que nous ne sommes pas à la hauteur du Christ, mais le Christ lui-même continue à nous donner rendez-vous malgré le fait que nous ne soyons pas à sa hauteur. Ben, c'est ça notre vraie liberté. C'est la liberté des fragiles, la liberté des pauvres, la liberté de ceux qui portent les croix. Et nous en avons tous plus ou moins grandes et plus ou moins explicites. Hein, voilà. Et je voulais vraiment vous faire sentir ça, voilà, que cet évangile est un évangile qui met en route, non pas sur un idéal, mais sur une suite très, très, très simple de Jésus. Voilà. Merci. Merci. Des questions. Je crois qu'on a une petite garde de questions. Il faut faire des questions possibles.
Oui. Dans la première annonce de la Passion, il dit qu'il prenne sa croix. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie dans le texte de l'époque, de prendre sa croix?
La croix, c'est un supplice d'abord qui est connu, puisque c'est un supplice romain. C'est le supplice romain le pire, parce que c'est vraiment celui d'abord, c'est pas celui du citoyen romain. Le citoyen romain, il est décapité, si jamais il y a une peine capitale, mais c'est beaucoup plus noble que d'être décapité. Paul sera décapité. Hein. Et donc, prendre sa croix, c'est vraiment accepter le sort de l'Est, le sort de l'Est. Puis c'est une mort qui est horriblement douloureuse, qui est en plus précédée d'un certain nombre de rites de moquerie.
même une fois sur la croix, on est manqué. Hein, donc c'est vraiment la pire des morts. Donc quand ils prennent sa croix, ça a dû être un petit choc quand même à ce moment-là, hein, qu'ils prennent sa croix et qu'ils me suivent.
Ouais. Mais alors, quid de la réponse des disciples à la proposition de Jésus, voulez-vous, finalement, à quel moment est-ce qu'ils s'engagent?
Alors, en fait, assez étonnamment, l'engagement dans les évangiles des disciples, il est hors récit. Ça, c'est le grand génie de Marc. Vous savez que Marc, il a une finale qui est aberrante et qui est tellement aberrante sur la finale de l'évangile de Marc, à la résurrection, que la tradition a rajouté tout un petit texte qui est toujours inspiré, mais que les protestants ne reçoivent pas, par exemple, hein, sur les versets 9 à 20. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la finale de Marc, mais c'est étonnant. C'est chapitre 16, donc on a la résurrection. Les femmes vont au tombeau, elles rencontrent le tombeau, elles rencontrent un jeune homme. Et puis on nous dit, le jeune homme leur dit, vous ne vous effrayez pas, c'est Jésus Nazaréen que vous cherchez, crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voyez-lui, on l'a mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles disent rien à personne car elles avaient peur. Fin de l'évangile de Marc dans sa version originelle. D'accord ? Car elles avaient peur. Et donc on s'en dit, attends, mais c'est une drôle de fin, ça. C'est pas une happy end. On a des femmes qui sont toutes tremblantes, effrayées, qui disent rien à personne. Bon. Puis on se dit, mais forcément, elles ont fini par parler puisqu'on a le texte. Et donc tout d'un coup, on est mis en face de ce paradoxe du texte, en disant, elles ont fini par parler. Mais du coup, on est obligé de se dire, de réfléchir sur, mais quels que sont devenus les disciples. Ben, les disciples, on n'arrivera juste avant sur, très étonnant d'ailleurs, aller dire aux disciples et à Pierre. C'est la première fois que Pierre apparaît après les disciples, dans l'évangile de Marc. Aller dire aux disciples et à Pierre qu'il le retrouve en Galilée, qu'il les précède en Galilée, comme il vous l'a dit. Et alors, tout d'un coup, on est renvoyé aux paroles de Jésus. Jésus a dit qu'il fallait aller en Galilée. Et cette rencontre en Galilée, elle est hors texte. Et dans ce lieu final, où le lecteur et le disciple, finalement, tous les deux se demandent quel va être l'avenir, et c'est ça le grand génie de Marc, c'est la rencontre avec le ressuscité, elle dépend de si je vais aller ou en Galilée. Donc, est-ce que les disciples y sont allés ou non, le texte ne le dit pas, on finit par le penser, puisque tout le texte est là pour le dire. Et puis tout ce que Jésus a dit, ça se faisait. Il a dit, je vais mourir, il est mort, il a dit, je vais ressusciter, je suis passé dans Galilée, donc voilà. Et c'est pas, je vous retrouve en Galilée, je vous précède, enfin, moi j'y serai, mais à votre liberté d'y être. Donc au fond, le livre se termine vraiment sur la question, est-ce que les disciples ont voulu y aller, hein? Et si on a le livre, on comprend bien que c'est que les disciples ont raconté, donc finalement ils y sont allés. Mais bien sûr, ça c'est très intéressant parce qu'on est sur une prolepse qu'on appelle extra-diégétique, c'est-à-dire externe. C'est une prolepse, c'est une annonce de Jésus qui dit qu'on va se retrouver en Galilée, mais enfin, je vois en Galilée, mais on ne sait pas si ça dit. Et ça, c'est le fait que ce soit une interrogation nous pousse à nous dire, est-ce que moi je vais y aller encore, est-ce que je vais aller moi, voir le ressuscité? Parce que là, il y a dans ma Galilée à moi, qui est mon ordinaire, ce que je vais rencontrer. C'est-à-dire qu'au fond, il ne peut pas y avoir de fin plus géniale pour ne pas clore avec le texte, n'est pas clos, il est ouvert sur la liberté du disciple, mais du coup sur la liberté du lecteur par la communication. C'est absolument génial pour ça. L'écriture du texte est absolument géniale. Ouais.
Moi, cette phrase qui m'étonne, c'est donc quand Pierre devient croyant, il dit tu es le Christ. Jésus ne dit rien à personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le croyant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être disciple pour être missionnaire et que le croyant ne peut pas nous secret,
enfin, que... Non, alors dans ce ne dit rien à personne, on a ce qu'on appelle chez Marc qui met ça en place, mais les autres reprennent aussi ce qu'on appelle le secret messianique. Enfin, Marc le souligne. On a passé une injonction au silence. Alors, ils sont très travaillé, mais une très belle thèse, une phrase qui s'appelle Sylvie Pierre, qui a fait une très belle thèse sur les injonctions au silence dans l'évangile de Marc. Et en fait, on le comprend juste après pourquoi Jésus demande de se taire. Sa grande crainte à Jésus, c'est que on se trompe sur son identité. Et à ce moment-là, la preuve, c'est que Pierre lui-même s'est trompé là-dessus. Et donc Jésus ne veut pas être pris pour quelqu'un qui n'est pas. Il sait très bien que l'ensemble des gens, pour le dire, l'ensemble des gens, le Christ doit être le Christ glorieux qui vient rétablir la royauté en Israël, et que lui, c'est pas ce qu'il est. Donc en fait, c'est sa grande crainte de ne pas être pris pour ce qu'il est vraiment. Donc il veut que les gens comprennent, à la rigueur, je pense que, ouais, qu'ils comprennent la passion, enfin qu'ils voient la passion avant de se, et la résurrection, pour comprendre qu'est le Christ. En fait, on comprend qui est Jésus-Christ que dans sa passion et sa résurrection. Donc c'est à un moment précis du ministère. Ça ne veut pas dire qu'il dit à personne, qu'il dit il ne faudra jamais parler de moi. Mais à ce moment-là, où il en est, c'est trop tôt pour dire, pour divulguer qu'il est le Christ, parce que ça risque simplement de partir sur des mauvaises compréhensions.